Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Le Nouveau Testament utilise plusieurs images pour nous aider à comprendre la relation qui existe entre Jésus-Christ et son Église. Dans la lettre de l'apôtre Paul à l'église d'Éphèse, nous apprenons que l'Église est l'épouse de Christ. Que pouvons-nous apprendre de cette image? Étienne est de retour parmi nous pour nous en dire davantage.
Ensuite, dans la deuxième partie de notre émission, Antoine nous rejoindra pour aborder le thème du mariage. Nos deux séries s'appuieront sur l'enseignement de Paul trouvé dans Éphésiens chapitre 5. À présent, Sandra va nous lire le verset 25.
Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme, comme le Christ a aimé l'Église.
Merci et bonjour Étienne. Merci d'être de retour parmi nous.
Avec plaisir, Yann, et bonjour à tous.
Christ aime l'Église, mais en quoi consiste l'amour de Christ? Comment le définir? Voici donc les questions qui nous préoccupent dans cette série de discussions bibliques. Étienne, de quoi allons-nous parler aujourd'hui?
Je voudrais me pencher sur cette phrase. Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle.
Paul fait ainsi référence à la croix sur laquelle Jésus est mort, me semble-t-il.
C'est exact, Yann. Jésus est mort, crucifié sur une croix par les autorités romaines, suite aux fausses accusations apportées par les chefs religieux juifs de l'époque. À première vue, Jésus semblait victime de circonstances tragiques. Il semblait subir l'injustice et la méchanceté des hommes. D'emblée, il donne l'impression qu'il n'est pas maître de la situation, mais qu'il est emporté dans un flot d'événements qui se retournent contre lui.
Mais selon le texte lu, Jésus a donné sa vie.
Oui, et cette affirmation importante suggère que Jésus était maître des circonstances, qu'il est mort sur la croix de son plein gré. Son geste était volontaire, et comme nous le rappelle l'apôtre Paul, c'était aussi un geste d'amour. Jésus aurait pu s'enfuir, il aurait pu échapper aux personnes et aux circonstances qui l'ont amené à être condamné et à mourir. Mais il y a renoncé par amour pour l'Église.
Mais en quoi la crucifixion de Jésus-Christ représente-t-elle un acte d'amour envers l'Église?
La Bible, du début à la fin, explique que les hommes et les femmes pratiquent le mal et de ce fait, aux yeux de Dieu, ils sont coupables. Leur nature est d'être pécheurs, ce qui les sépare de Dieu et les destine à passer l'éternité sans lui. La Bible enseigne aussi que l'homme pécheur ne peut rien faire pour changer cette situation tragique. La seule solution est qu'un innocent meure à la place du coupable en prenant sur lui le juste châtiment du Dieu trois fois saint. Or, Jésus-Christ est cet homme innocent. Sur la croix, il s'est donné en sacrifice. C'est-à-dire qu'il y a subi notre châtiment à notre place. Personne n'a contraint Jésus à mourir sur la croix. Il y est allé de son propre gré. Il a donné sa vie par amour pour nous. Ces bénédictions qui résultent de la croix sont nombreuses et merveilleuses. Grâce à la croix, tout croyant fait partie de l'Église. Il est pardonné du péché, purifié de sa corruption morale et spirituelle. Jésus a donné sa vie. Et tout croyant qui constitue l'Église est maintenant réconcilié avec Dieu le Père. Il est adopté par Dieu et devient ainsi son enfant. Parce que Jésus a donné sa vie, l'Église entière est destinée non plus à la condamnation, mais à la résurrection pour vivre éternellement avec Dieu. Le chrétien jouit à présent de tant de bénédictions spirituelles et célestes. Or, elles sont toutes liées à la croix. Si Jésus ne s'était pas donné ainsi en sacrifice, nous ne posséderions aujourd'hui aucune de ces bénédictions. Jésus a donné sa vie, et du coup, tous ceux et celles qui croient en lui jouissent d'une nouvelle vie, qui est la vie spirituelle. Or, cette vie consiste à connaître Dieu et à vivre avec lui pour toujours.
Il ne peut y avoir de plus grand cadeau que ce don de la vie spirituelle et éternelle.
Oui, et pourtant ce cadeau a été offert, malgré son prix très coûteux. Celui de la mort du Fils éternel de Dieu, le Seigneur Jésus. Est-il possible de mesurer la profondeur de l'amour d'une personne en calculant le prix des cadeaux qu'elle est prête à offrir? Je pense que oui. Est-il possible de mesurer la profondeur de l'amour d'une personne en considérant la nature des sacrifices qu'elle est prête à faire? Je pense encore que oui. Eh bien, selon ces critères, Jésus, en donnant sa vie sur la croix, nous prouve son amour, qui est immense. Le Fils éternel de Dieu, Jésus, a quitté la gloire des lieux célestes pour vivre parmi les hommes et prendre la place d'un serviteur. Il a donné son temps, il a offert son énergie pour nous faire du bien, et ceci malgré le contexte d'opposition dans lequel il était plongé. Quel sacrifice ! Et puis, Jésus a fait plus encore, il a donné sa vie. Il s'est livré à une mort atroce. Il a subi l'injustice, la violence des hommes. Il a été abandonné par Dieu son Père. Voilà le prix de notre pardon, de notre salut et de notre espérance éternelle. Son sacrifice n'a pas de prix. Quel amour !
Jésus a donné sa vie pour l'Église. Nous sommes émerveillés par ce geste d'amour. Mais comment y répondre ?
Son amour inspire notre reconnaissance, notre adoration, notre confiance aussi. Cependant, l'apôtre Paul précise aussi, dans le chapitre 5 de sa lettre aux Éphésiens, que l'Église doit se soumettre à Christ. De nos jours, la notion de soumission est souvent mal comprise, et l'idée de devoir se soumettre à quelqu'un peut refroidir. C'est pour cette raison qu'il est important d'expliquer ce que la soumission représente dans le contexte de notre relation avec Jésus-Christ, qui est une relation d'amour avant tout.
Merci Étienne. Oui, la soumission dans le contexte biblique fera l'objet de notre prochaine discussion. Nous parlerons alors de la soumission de l'Église à Jésus-Christ, et puis aussi de la soumission de la femme à son mari.
En attendant cette importante discussion, nous allons maintenant passer à la deuxième partie de notre émission. Nous venons de parler du sacrifice réalisé par Jésus sur la croix. Or, ce sacrifice prouve son amour envers l'Église. Et nous allons maintenant revenir sur les paroles de Paul qui déclare « Marie, que chacun de vous aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Christ a donné sa vie pour l'Église. Alors, comment un mari peut-il donner sa vie pour sa femme ?»
Antoine vient nous rejoindre pour poursuivre nos discussions. Bonjour.
Bonjour Yann. Bonjour à tous. Dans de rares circonstances, un mari peut littéralement mourir pour protéger et sauver sa femme et ses enfants. Il peut par exemple s'interposer lors d'attaques de brigands ou de milices et ainsi donner plus de temps à sa famille pour qu'elle puisse prendre la fuite dans la brousse. Un tel sacrifice est courageux et exprime un grand amour. Toutefois, je pense qu'il faut réfléchir sur le sens de ces mots « donner sa vie » de façon à en tirer des leçons qui s'appliquent à la vie de tous les jours.
Je vous en prie, expliquez-vous.
Arrêtons-nous d'abord sur le mot « donner ». Au sein d'un mariage, l'amour représente le don de soi, d'un mari envers sa femme et d'une femme envers son mari. Mais malheureusement, les hommes et les femmes sont trop souvent égoïstes et ils peuvent utiliser leur conjoint de façon intéressée. Un mari peut, par exemple, s'attendre à ce que sa femme obéisse à tous ses ordres et le serve du matin au soir, sans réfléchir à ce qu'il pourrait faire pour elle en retour. Une femme aussi peut se montrer intéressée, en essayant d'imposer sa volonté à son mari ou en le manipulant pour qu'il la couvre de cadeaux, sans penser à ce qu'elle pourrait lui apporter en retour. Ainsi, trop de mariages deviennent des jeux de pouvoir, chacun tirant de son côté, tout en essayant de manipuler l'autre et d'en tirer un avantage.
Mais l'exemple de Jésus nous interpelle, car son amour est un véritable don de soi.
Oui, et cette vision de l'amour, ce don de soi, doit façonner toutes nos relations personnelles, mais surtout celles qui construisent notre mariage. Mais l'apôtre Paul, en parlant du mariage, veut probablement aussi nous mettre en garde contre un danger.
Lequel ?
Un mari ou une femme peuvent être si engagés dans la vie d'une église ou d'une œuvre caritative qu'ils ou elles peuvent en arriver à négliger leur vie de couple. Bien entendu, il est merveilleux d'aimer ses frères et ses sœurs dans son église. Il est également louable de s'intéresser à son prochain avec compassion et de lui porter secours. Toutefois, certains peuvent afficher une attitude aimable et sympathique envers leurs frères ou leurs prochains et exprimer une toute autre attitude envers leur femme ou leur mari. Cela n'est pas juste. Il faut trouver un juste équilibre entre ses engagements à l'Église ou ailleurs et la nécessité de construire et de maintenir un mariage solide, fondé sur l'amour et le don de soi.
Merci d'avoir souligné ceci. Nous comprenons qu'aimer l'autre, c'est donner. Mais quel est au juste ce don de soi dont nous parlons?
Se donner, c'est tenir compte des besoins, des désirs et des aspirations de sa femme ou de son mari et de faire tout ce que l'on peut pour y répondre. Pour fonder un mariage solide et réussi, l'amour doit être vécu par chacun des conjoints, leur amour doit être réciproque. Aimer, c'est donner son temps, c'est donner son énergie pour servir et soutenir son mari ou sa femme. Oui, il faut du temps pour construire un mariage et le rendre heureux. Souvent, nous préférerions faire autre chose et penser à nos propres besoins. Mais l'amour, c'est aussi savoir renoncer à soi-même et à ses propres intérêts. Oui, pour construire un mariage fort et favoriser l'épanouissement de sa femme ou de son mari, il faut parfois savoir renoncer à soi-même et à certaines de ses ambitions, aspirations ou désirs. Voilà des sacrifices, parfois assez coûteux.
Et l'exemple de Jésus et son sacrifice sur la croix peut nous instruire, nous inspirer et nous encourager.
Oui, c'est exact, Yann. Et pour finir, je voudrais ajouter que parfois les circonstances changeantes de la vie peuvent nécessiter des sacrifices plus coûteux encore. Citons l'exemple d'un mari ou d'une femme qui subit un accident grave ou qui tombe brusquement gravement malade. Dans ces situations, la personne malade ou handicapée ne peut plus faire autant que dans le passé. De plus, elle a besoin de soins et de soutien. Le conjoint bien portant se trouve alors placé devant de lourdes responsabilités. Il doit assumer plus de charges à la maison et s'occuper de la personne malade. Ces circonstances exigent un amour, un don de soi extraordinaire, que l'autre ne pourra pas forcément donner en retour. Prendre soin d'un conjoint malade, pendant des mois, voire des années, représente un sacrifice énorme et coûteux. La tentation existe d'abandonner la personne malade et à chercher à refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. Mais en s'inspirant de la fidélité et du sacrifice de Jésus, nous sommes appelés à rester auprès de celui ou de celle qui a tant besoin de nous. Nous sommes appelés à rester fidèles et à lui donner notre vie, quelles que soient les circonstances et les épreuves traversées.
Merci Antoine pour ces rappels importants sur l'amour, qui est un véritable don de soi. Notre émission arrive ainsi à sa fin, mais nous retrouverons nos deux invités la prochaine fois pour la suite de nos séries.
En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir et à bientôt.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.